posséder un bien patrimonial important, c'est une chance. Mais c'est une lourde responsabilité. Alors, on s'en occupe parce qu'on l'a reçu, parce qu'on choisit de l'acheter et qu'on se donne une mission. Mais, parfois, prendre un bien patrimonial, c'est un choix qui s'impose comme une évidence. Il faut le sauver. Il faut sauver un patrimoine. Et comme l'union fait la force, il vaut mieux monter une association pour y arriver. C'est le cas aujourd'hui avec Olivier Grandboulan qui s'est lancé dans une magnifique aventure à Langeais pour sauver trois églises. Bienvenue dans notre émission « Le patrimoine se partage ». Je reçois donc Olivier Grandboulan. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurence.
Olivier habite Langeais et il a monté une association Langeais Patrimoine. Alors, première question, est-ce si important d'aller vouloir sauver trois petites églises dans Langeais qui possèdent déjà en son sein un magnifique château?
Alors oui, Laurence, c'est très important car nos trois églises font partie du plus grand musée de France. Et c'est un complément pour les touristes à côté du château de Langeais.
C'est ça. Donc, ça vient en complément. Et puis, ces trois églises, étant très anciennes, appartiennent à la mairie.
Tout à fait.
Véritablement, ce qui n'est pas le cas du château.
C'est exact. Les trois églises sont des biens appartenant à la commune de Langeais.
Est-ce si important d'aller vouloir sauver ces trois petites églises? Qu'est-ce que ça a comme sens aujourd'hui?
Alors, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie du paysage, et les citoyens sont attachés à leur clocher. Et il faut éviter qu'il s'écroule.
Le patrimoine religieux a-t-il une vraie importance aujourd'hui?
Il a toujours une vraie importance. Il faut par contre qu'à côté d'activités cultuelles, il y ait aussi des activités culturelles.
Ah, j'entends bien la distinction que vous introduisez, et ça c'est très, très intéressant. On y reviendra, je crois, tout à l'heure. Alors, pour commencer, on commence par vous, Olivier. Vous êtes natif de Langeais. Vous avez passé votre enfance là, votre famille s'y est impliquée, racontez-nous un peu.
Voilà, alors ma famille est langésienne, elle est arrivée avant la guerre de 14.
Oui.
Nous sommes de tradition, je vais dire, industrielle ou ingénieur dans ma famille. Et donc j'ai ce parcours atypique par rapport au patrimoine. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un universitaire, mais je suis tombé dans la marmite du patrimoine dès que j'étais jeune.
Et le patrimoine de Langeais en particulier, donc une ruelle ne vous échappe.
Exact.
Et donc, vous avez commencé, il y a déjà quelques années, en vous intéressant à une petite statue que vous avez voulu installer.
Voilà. J'ai en fait restauré un bâtiment au pied du château de Langeais. Et dans ce cadre-là, j'ai pris la décision de mettre une statue de Saint-Martin en charité dans une niche face à la sortie du pont-levis du château de Langeais.
Mais ce n'était pas une restauration, ça c'est une création.
Alors, la statue est une création et le bâtiment c'est une restauration.
Voilà, les deux se complétaient. Voilà.
Et pour trouver le sculpteur, j'ai cherché des sculpteurs en Alsace ou à d'autres endroits en France.
Oui.
J'ai cherché aussi des symboliques de représentation de Saint-Martin. Et en fait, je me suis arrêté sur un sculpteur tourangeau qui est Yannick Cochet, qui a sculpté cette statue de Saint-Martin sur son cheval et coupant son
manteau
avec le mendiant au pied.
Et puis, tout d'un coup, vous avez découvert, entre guillemets, ces trois petites merveilles qui s'appellent...
Alors, la première église la plus proche du château est la collégiale Saint-Jean-Baptiste.
C'est la paroisse.
La seconde est l'église prieuré Saint-Laurent.
Oui.
Et la troisième église qui a été rattachée à Langeais suite à une fusion de communes, c'est Notre-Dame des Essarts.
Donc, elle est un petit peu plus loin du centre-ville.
Elle est au milieu des bois.
Oui, voilà, il faut y aller en voiture.
Oui.
Et Saint-Jean-Baptiste est généralement la plus connue parce que c'est la paroisse et que...
Et puis qu'elle est à 200 mètres du château. Donc, le touriste, quand il sort du château, voit le clocher et va pousser la porte et regarder l'intérieur de l'église.
Oui, donc les touristes peuvent y aller directement.
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 Saint-Laurent, qui est à 500 mètres, beaucoup moins de gens y vont, d'autant plus que... L'église de Saint-Laurent est fermée en permanence.
Ah oui, ça on y reviendra aussi. Ces trois églises ont un point en commun.
Elles sont romanes.
Toutes les trois. Saint-Jean-Baptiste est encore plus ancienne.
Voilà, alors je dis romane pour faciliter les choses, mais c'est Saint-Martin qui a détruit un temple païen il y a 1600 ans et qui, à la place, a construit une basilique, la basilique de l'Angèle, la basilique Saint-Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, pour accroître la ferveur et que les païens soient intéressés, il a mis des reliques de Saint-Jean-Baptiste dans l'église.
Ouh, mais c'est un trésor.
On ne sait pas où elles sont.
Elles ne savent pas où elles sont. Nous, on sait qu'elles y sont, c'est la foi qui sauve.
Voilà. Ou elles sont peut-être murées dans un mur.
Le patrimoine, ça se partage sur RCF.
Nous retrouvons Olivier Grandboulan, président de l'association Langeais Patrimoine. Parlez-nous de ces trois églises. Donc vous avez commencé un petit peu avec Saint-Jean-Baptiste, mais les deux autres sont très différentes en fait.
Voilà, alors les trois églises sont quand même très romanes ou légèrement ou gothiques, Plantagenet pour en particulier Notre-Dame des Essarts. Et je vous propose qu'on se concentre sur Notre-Dame des Essarts, qui est un véritable bijou de la statuaire gothique Plantagenet du XIIIe siècle.
Mais qui a été construite...
Alors en 1022, ça fait un millénaire.
C'est son millénaire
cette année.
Nous fêtons
son millénaire aujourd'hui.
Voilà. On fête l'anniversaire de la vieille dame, qui correspond à une jolie histoire.
Alors c'est une légende qui est très jolie, qui est à l'origine. Nous avons deux chevaliers qui sont les frères Mako, qui sont en prison chez les Sarrasins et qui font un vœu.
Ils sont partis faire les croisades.
Voilà, ils font un vœu, fonder une église s'ils sont libérés. Ils sont libérés. Ils vont fonder cette église. Après, il y a d'autres légendes qui se rajoutent, mais on n'a peut-être pas le temps de raconter toutes les légendes.
Mais celle-ci est déjà bien. Voilà. C'est donc une église fondée au retour des croisades, libération du retour des croisades. Dans les Essarts, ça veut dire qu'on a défriché.
Ça veut dire qu'on a essarté la forêt, donc défriché.
Voilà. Et tout cela, elle a une sculpture, une statuaire tout à fait exceptionnelle, cette église. Tout cela est décrit dans votre site patrimoine, Langeais Patrimoine. Je ne me trompe pas. Et ceci vous a demandé énormément de travail.
Alors, ça nous a demandé beaucoup de travail, mais on a eu la chance d'avoir 2 années de Covid, finalement. Et donc, d'avoir des gens disponibles aussi pour répondre à nos questions sur Internet, que ce soit en France ou à l'étranger, quand on cherchait à comprendre ce que représentait une statue, ce qu'elle voulait raconter. Par exemple, on voit 2 statues qui montrent la religion catholique vainqueur de 2 religions païennes.
Donc ça, il a fallu interpréter.
Voilà, il a fallu interpréter.
Et là, vous faites un premier appel, je crois, à nos auditeurs.
Alors, effectivement, on fait un premier appel parce qu'on n'a pas d'archives.
Oui.
Et on est plutôt basé sur des historiens du 19e, du début du 19e ou de la fin du 19e. Mais qu'hélas, au 20e, les gens n'ont fait que copier-coller ce que des historiens, des chanoines, des abbés ou des bourgeois, entre autres membres de la Société d'archéologie de Touraine, avaient écrit sur Langeais en mettant quelques lignes.
Oui, donc en fait, ce qu'on trouve sur Internet, le travail que vous avez fait essentiellement à partir d'Internet ou de quelques livres que vous aviez, c'est en réalité la compilation de travaux qui ne sont pas... vraiment scientifique.
Alors, c'est de la compilation de travaux, et en tant qu'ingénieur, j'aimerais bien que des gens aillent dans les archives pour qu'on ait de la véracité et non pas qu'on attribue parfois un morceau de bâtiment au 12e, alors que ou qu'on attribue un morceau de bâtiment au Louis de Bourbon, à Louis de Bourbon qui est un bâtard de Bourgogne. À l'ère gothique.
Ça, on ne sait pas. Oui. Donc, pour faire tout cela, vous avez une équipe autour de vous qui une équipe familiale d'abord.
Alors, il y a une équipe familiale. Mon épouse Marion m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup tous les jours. Et en plus, on a déjà plus d'une 20aine de bénévoles qui sont actifs, par exemple, qui ont participé aux Journées du Patrimoine ou pour animer le concert et l'encadrer. Et puis, nous avons presque déjà 100aine de membres. Qui nous soutiennent moralement
c'est déjà
et financièrement.
Considérable. Et puis vous avez déjà beaucoup de visiteurs qui ont été très intéressés.
Voilà, alors on a déjà eu quelques centaines de visiteurs la première fois en 2021, et puis là on a eu beaucoup plus de visiteurs lors des dernières journées du patrimoine, le 17 et 18 septembre.
Voilà. Et donc, à chaque fois, ils apportent leur pierre, éventuellement, s'ils peuvent dire quelque chose qu'ils savent en plus.
Voilà. Enfin, et puis on a même réussi à motiver des artisans et des artistes contemporains à venir animer nos églises lors des journées du patrimoine pour l'amour du patrimoine et pour faire la promotion de ce patrimoine langésien pour qu'il soit restauré dans le futur.
Nous arrivons à notre pause musicale. Alors, vous avez choisi Les vêpres d'un confesseur de Mozart. Voilà. Pourquoi ?
Alors, parce qu'on a fait venir un orchestre de Toulouse, constitué principalement d'anciens étudiants et encore très jeunes, arrivant tout juste dans la vie active, la Clé des Champs. Et finalement, quand on donne un concert dans une église, nous devons respecter trois directives. Celle de la mairie,
oui.
Celle du curé affectataire et celle de l'archevêché. Alors, c'est un clin d'œil, parce que l'archevêché a souhaité qu'on rajoute à du Mozart, du Bach, du Beethoven, du Handel, qu'on rajoute un morceau de musique plus religieux que les autres morceaux profanes qui avaient été choisis dans le programme.
Et donc, nous voilà à l'écoute de Mozart dans les vêpres d'un confesseur.
Voilà.
Le patrimoine, ça se partage sur RCF, une émission de VMF, Vieille Maison Française, l'association au service du patrimoine bâti et paysager.
Nous retrouvons Olivier Grandboulan, qui nous a expliqué comment il a monté une association pour sauver donc ces trois églises de Langeais. Et revenons à vous, quelles étaient vos motivations profondes?
Alors, véritablement, ma motivation, c'est qu'il faut qu'on entretienne ces églises et qu'on les sauve et qu'on n'attende pas un demi-siècle qu'elles s'écroulent.
Ça sera fini, ça.
Donc, je me suis donné un projet sur une quinzaine d'années parce que les restaurations vont être très lourdes et qu'il y a beaucoup d'étapes administratives à passer car, comme je disais tout à l'heure, ces bâtiments appartiennent à la commune. Donc il y a des démarches administratives importantes à mener avec la commune, avec la DRAC, et ce sont des actions de longue haleine.
Et alors, est-ce que vous avez l'impression que les politiques locaux sont intéressés par votre démarche ?
Alors oui. Déjà, si je prends la commune de Langeais, la mairie, le conseil municipal, a adhéré à cette démarche, à l'unanimité, le conseil municipal a voté des demandes de classement monument historique, aussi bien d'objets que des bâtiments. Par exemple, nous venons de faire classer une cloche monument historique.
La cloche sonne, de Notre-Dame des Essarts.
Voilà, et elle sonne depuis 1505.
Qui a
un carillon magnifique.
Magnifique.
Tout à fait. Vous avez pu l'entendre.
Rien que le carillon mérite le déplacement.
Et elle sonne depuis l'époque de François Ier. C'est quand même extraordinaire.
Extraordinaire, oui.
Nous avons fait inscrire à l'inventaire des monuments historiques l'orgue de Louis Beaune. Et il est en cours de demande de classement monument historique. Donc, si vous voulez, on voit que localement, déjà, il y a une adhésion à faire bouger les choses et faire avancer.
Parce que votre première démarche, si je comprends bien, elle est d'abord administrative.
Alors,
il faut étendre les classements qui existent déjà.
On a des bâtiments qui ne sont pas tous 100% monuments historiques. Donc
et
on a intérêt.
Ils sont inscrits. C'est,
voilà, certains sont inscrits ou parfois il y a même des zones vierge, voilà. Il n'y a rien.
Oui, parce que c'est, sur le plan de l'aide financière de l'État, ça fait une grosse différence. Et il faut bien expliquer que comme ces biens sont propriété de la mairie, c'est la mairie qui doit faire ces démarches.
C'est la mairie qui doit faire la démarche, qui doit instruire les dossiers
et
à la DRAC d'Orléans.
Et qui sont acceptés ou refusés par la DRAC.
Tout à fait.
Donc, première énergie dans cette direction, si je puis dire. Mais est-ce que vous rencontrer de la population locale à ce moment-là, et même des touristes, un écho positif, vous êtes suivi ?
Alors oui, je suis suivi par la majorité de la population locale, mais après, comme dans tout projet, il y a aussi des gens qui veulent le freiner.
Bien sûr. Ça, c'est, ça, j'imagine que vous rencontrez aussi des difficultés. On y reviendra tout à l'heure parce que vous dépensez beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire sur la commune, j'imagine. Et quels sont les types de freins que vous rencontrez?
Alors, les freins, c'est clair. Lorsqu'on va dire à des gens, essayez de soutenir financièrement un pareil projet, on pourrait vous répondre, mais il y a d'autres urgences plus immédiates. Ouais. Pour améliorer la vie du citoyen. Donc c'est le genre de conflit que l'on peut avoir, ou je vais dire d'équilibre à trouver dans une balance et à répartir la vitesse pour
Parce
mener à bien ce projet.
Il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure, sur laquelle j'aurais revenir, que vous aviez des projets cultuels. Apparemment, toutes les églises étaient plus ouvertes au culte, mais vous avez aussi des projets culturels qui ne s'intéressent pas forcément au même public. Vous pouvez revenir là-dessus.
Alors, sur le plan culturel, en fait, on a deux églises qui sont des églises sacralisées,
oui.
Notre-Dame des Essarts et la collégiale Saint-Jean-Baptiste. L'église Notre-Dame des Essarts, étant plus loin de Langeais, à 10 km au milieu des bois, c'est une église dans laquelle il faut qu'on fasse revenir du monde sur le plan de l'animation cultuelle. Mais le principal projet, c'est surtout sur le plan culturel, de faire en sorte que beaucoup de gens qui voient les églises, qui les connaissent en voyant leur silhouette, aient envie de franchir la porte et de découvrir dedans un tableau d'un élève d'Ingres, un tableau d'un peintre qui présentait tous les ans ses tableaux à Paris au Salon des Artistes, un sculpteur bourguignon du XVIIe siècle, ou des statues du XIIIe.
Et ça, aujourd'hui, c'est très important dans la vie de chacun, d'avoir un élargissement de sa culture.
Autant que ces gens voient l'intérieur de ces bâtiments et pas simplement la silhouette de ces églises, de leur patrimoine.
Voilà. Parce que c'est leur histoire et il faut qu'ils se la réapproprient.
Le patrimoine, ça se partage sur RCF.
Ici Laurence Delivoye, membre des VMF, Vieilles Maisons Françaises. Les Vieilles Maisons Françaises sont une association, elle aussi, de défense du patrimoine privé dans son ensemble et le patrimoine architectural et paysager. Et donc aujourd'hui, je reçois Olivier Cramboulant, qui a monté une association, c'est privé, pour défendre un bien public, qui sont trois églises à Langeais. Quelles sont vos relations avec notre association?
Alors, ce sont de vieilles relations, car dans les années 60, le colonel de Maintenant, qui habitait rue Jules Simon, a suggéré à ma mère d'adhérer aux Vieilles Maisons Françaises. Et donc, depuis cette époque, j'ai été entraîné dans des visites de châteaux, d'églises, aussi bien au sein des Vieilles Maisons Françaises qu'au sein d'autres associations tourangelles, la Société d'Archéologie ou Patrimoine Environnement.
toutes les sociétés.
Ou les maisons paysannes, quoi, en fait.
Donc, vous êtes tombé dedans. Vous êtes
tombé dans
la marmite.
Je suis tombé dans cette marmite du patrimoine.
Voilà. Et oui, en fait, vous l'avez quitté pour des raisons professionnelles.
Alors, je l'ai quitté.
Vous y reveniez tout naturellement.
J'ai gardé la lecture de documents de ces associations. Et par exemple, je viens de découvrir dernièrement qu'il y a une pierre de Crié à l'entrée, à l'extérieur de l'église Notre-Dame des Essarts, qui est au milieu d'herbes folles.
Qu'est-ce que c'est qu'une herbe de Crié ?
Alors, en fait, il y a deux types de pierres qu'on trouve à côté des bâtiments en Touraine. Des pierres d'attente des morts, et puis des pierres sur lesquelles on déclamait des annonces à l'extérieur de l'église.
Voilà. Le héros, AULT, annonçait ce qui allait se passer.
Voilà, c'était les annonces.
Les annonces, et on ignorait l'existence de cette pierre.
Voilà, et là, cette pierre, bon, elle est en morceaux. Hein.
Oui. Mais enfin, on la voit bien, on peut monter dessus, on peut jouer au héros dessus. Et donc, quels sont vos projets là, dans l'immédiat ? Vous venez d'avoir les Journées du patrimoine ?
Voilà, alors, tout à fait, on vient d'avoir les Journées du patrimoine, et nos projets, en fait, ça va être de rechercher d'ailleurs plus de bénévoles pour mener d'autres actions culturelles. Parce que si l'on veut donner plus de concerts, ben, il faut plus de monde aussi pour donner du temps libre. Et puis, on aura aussi besoin de donateurs et de mécènes pour le futur, pour aider notre association dans sa tâche
de reconstruction, de restauration. Donc, on a déjà fait appel aux historiens. Oui. On fait appel aux bénévoles
pour nous rejoindre.
Pour nous rejoindre. On fait appel aussi aux touristes.
Et on fait appel aux touristes parce que c'est évident que plus nombreux ils seront à rentrer dans ces églises, bah plus on aura envie de les restaurer et de les mettre en valeur.
On peut les visiter facilement, ces églises ?
Alors, on peut les visiter. Alors, il y a déjà maintenant une première visite possible, c'est au travers de notre site, l'Angers Patrimoine.
Oui, qui est remarquable, ça, je vous invite
et puis,
vraiment à y aller.
On peut aussi, au travers de la zone contact de ce site, si certaines de ces églises sont fermées, comme Saint-Laurent et les Essarts, nous demander d'organiser des visites privées.
Donc, à ce moment-là, en fait, pour se résumer, Saint-Jean-Baptiste est toujours ouvert.
Saint-Jean-Baptiste, vous avez tout à fait raison,
est
toujours ouvert.
Il y a une petite explication, on peut se diriger tout seul.
Il y a des petites explications, et en particulier, il y a des explications sur le site internet maintenant, où vous verrez...
On peut le suivre en même temps.
Vous pouvez suivre à partir du site internet.
C'est comme une appli,
finalement. Sur votre téléphone
portable. Oui. Et puis, les deux autres, Notre-Dame des Essarts et Saint-Laurent, il faut demander à la mairie deux jours avant.
Alors, il faut nous demander...
À l'association,
pas à la mairie.
Pas à la mairie.
Il faut nous demander à nous si l'on peut organiser une visite.
Donc,
et si
par le biais du site encore.
Par le biais du site.
Donc, par le biais du site,
Donc, plusieurs jours à l'avance, si possible.
Donc, quand on fait sa visite à Langeais, on prévoit de visiter le château, on prévoit d'aller visiter les églises ensuite. Ça nous complète bien toute l'après-midi. C'est une très jolie après-midi et on vit des choses de très différentes.
Totalement
finalement. C'est très vivant.
Oui.
Eh bien, merci. Merci, Olivier.
Merci, Laurence.
Alors, cette fin d'émission, j'ai ma joie. Je ne peux pas vous poser la question fétiche parce que vous n'êtes pas propriétaire des lieux. Mais quelles sont vos joies et quelles sont vos peines ?
Alors, ma joie, c'est d'avoir démarré ce combat pour les 15 ans qui viennent et d'avoir déjà trouvé de l'adhésion parmi quelques dizaines de bénévoles et presque une centaine de membres qui sont langésiens, tourangeaux, français ou... des membres d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe,
oui, des étrangers
qui essayent de nous soutenir dans notre combat.
Voilà.
Donc ça, c'est une très grande joie.
C'est déjà une victoire.
Voilà. Ouais. Mais maintenant, il faut aller plus loin.
Mais maintenant, il faut aller plus loin. Et parfois, cela est un peu difficile. Le combat se révèle
ardu.
On
peut avoir des peines parfois parce qu'on voit que c'est plus difficile. Voilà. Et on pourrait imaginer que certaines personnes nous soutiennent. Or, elles sont plus motivées par d'autres directions que de sauver le patrimoine.
Bon, alors bon vent, on vous souhaite bon
Merci.
Vent, bonne expérience.
Mais sans ouragan sur le clocher ni foudre.
Exactement, prions la météo. Cette émission se termine.
Parce qu'à Bourgueil, on a bien vu une toiture s'envoler.
Bien sûr.
Dans un ouragan.
Et cela n'arrive pas à nos chers
amis. Et les Essarts n'étaient pas très loin du trajet.
Ouais, ouais. Merci Olivier d'être venu nous raconter cette aventure singulière, de nous faire partager votre amour de Langeais, du patrimoine religieux, de toute la région. On s'en sent ensemble. Et bravo
Merci
pour
beaucoup,
votre
Laurence,
énergie.
D'avoir accepté que je parle de bâtiments qui appartiennent à une commune.
Voilà. Nous nous retrouvons la prochaine fois, le lundi 24 octobre, autour de Montpoupon.